France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui, sur ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Et puis pour le débat, un invité exceptionnel. Nous recevrons un essayiste et conseiller politique, dirigeant du think tank Volta à Milan et enseignant à Sciences Po Paris. Après s'être consacré au nouveau maître de la propagande politique dans Les Ingénieurs du Chaos, puis Hommage du Kremlin, il se penche dans son dernier livre sur cette nouvelle race de chefs d'État dont les méthodes nous choquent et nous lancent un défi majeur. Le livre s'appelle « L'heure des prédateurs » aux éditions Gallimard. Son auteur, Giuliano da Empoli, sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negarov sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
La semaine fut-elle bonne ?
Très bonne.
Très bonne. Très bonne. Allez, premier thème du duel, ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Un rapport qui a beaucoup fait réagir, notamment l'imam de la mosquée de Villeurbanne, cité dans ce même rapport.
Ce rapport qui est plein d'erreurs, parce que notre mosquée, après ses distances avec toutes les fédérations depuis au moins 15 ans, et notamment musulmans de France, les frères musulmans n'ont aucune présence dans le département du Rhône. J'ai contacté avec tous les imams. Il n'y a aucun imam qui demande l'application de la charia. Ces considérations les a dépassées depuis des années. Ce rapport, il remet en cause, il discrédite tout le travail que nous avons fait depuis 15 ou 20 ans.
À l'écouter, un rapport donc qui fait des erreurs, mais qui en plus serait contre-productif. Ce rapport de plus de 70 pages, vous l'avez lu, Natacha. Est-ce que vous y avez trouvé un motif d'inquiétude ? Est-ce que les frères musulmans sont une menace réelle pour la République ? Ou bien est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ?
Alors, ce rapport, on parlera peut-être tout à l'heure des conditions dans lesquelles il a été publié, sorti dans la presse, oui. Puisque ça joue aussi dans la lecture qui en a été faite.
Et bah, on peut le dire peut-être.
Puisque, hein. Et en effet, juste en un mot, Bruno Retailleau a fait fuiter ce rapport. Dans le Figaro. Et sans doute aurait-il préféré que ce rapport soit publié avant l'élection, même s'il n'en avait pas besoin. Bon. Mais si on met cela de côté, si on met également de côté les réactions assez pavloviennes de l'ensemble du milieu politique, entre Gabriel Attal qui essaye d'exister par des propositions maximalistes, Marine Le Pen qui parle de blagues...
Voilà, interdit avant l'âge de 15 ans.
Voilà, Marine Le Pen qui parle de blagues, Jean-Luc Mélenchon qui convoque l'islamophobie et Emmanuel Macron qui estime que le gouvernement n'a pas de proposition solide, ce qui lui permet de se placer en arbitre au-dessus de la mêlée.
Bon, un jeu de rôle.
Passons donc sur cela, jeu de rôle. Ce rapport, pourquoi a-t-il été commandé et pourquoi a-t-il été publié ? Parce que nous savons, enfin les gens qui connaissent les frères musulmans, l'état de l'islamisme en France ne seront pas surpris de ce qu'il contient. Il n'y a rien de nouveau, mis à part les circonstances et l'ambiance qui jouent, et c'est ce que souligne ce rapport, à savoir le fait que ceux qui l'ont écrit ont été confrontés en permanence à une évocation du conflit israélo-palestinien, à une façon de considérer que les musulmans en France seraient victimes d'islamophobie et maltraités. Bref, ce qui est nouveau, me semble-t-il, dans ce rapport, c'est en fait tout ce qui a conduit, notamment les services de renseignement, à se dire qu'il y avait une extension du problème. Parce qu'après, le rapport fait un état des lieux tout à fait juste sur le nombre de mosquées qui sont rattachées. Le
7%
nombre,
des mosquées.
Voilà, le noyau dur des membres présumés des frères musulmans. C'est très faible, en effet.
1000, oui.
Mais le problème est beaucoup plus vaste que cela, parce qu'il faut le rappeler systématiquement. L'idéologie des frères musulmans, et qui désormais les dépasse en fait, et c'est cela qui est très difficile à mesurer, c'est la réislamisation. La réislamisation, ça veut dire une pression faite sur les citoyens de confession musulmane dans les différents pays européens pour qu'ils ne se sécularisent pas, pour qu'ils ne s'intègrent pas aux sociétés européennes. Or ça, il n'y a plus besoin des frères musulmans pour cela. Et c'est tout le sujet. Ce qui est intéressant, c'est évidemment le fait qu'il y a une idéologie chez eux, chez les frères musulmans, qui est, en particulier en France, tournée vers l'éducation. Et ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu sur lequel il faut se pencher profondément. Mais il me semble beaucoup plus dangereux de voir que nous sommes dans un moment où il n'y a plus besoin d'une confrérie très organisée comme celle-là pour que des prêcheurs sur les réseaux sociaux incitent des jeunes gens à une vision totalement identitaire et ritualiste de l'islam. Sur la question de l'éducation, là aussi, c'est extrêmement compliqué. On a déjà parlé ici du lycée Averroès. Un point, tout de même, on a l'impression de revenir éternellement sur les mêmes débats. Par exemple, la proposition tout à fait juste, à la fin du rapport, disant qu'il faudrait développer l'enseignement de l'arabe dans l'école publique. Je le crois aussi, mais ça fait des années qu'on le dit, qu'il est absolument aberrant de laisser des parents mettre leur enfant à l'école coranique parce qu'il n'y a pas de cours d'arabe et il est légitime que des parents veuillent enseigner l'arabe. Je préférerais qu'on forme des arabisants en France.
Gilles, ce rapport sur les frères musulmans, dont on rappelle que le mouvement La Confrérie a été créé en 1928, donc il y a bien longtemps, c'est un mouvement qui compte prendre le pouvoir politique dans les pays, qui a échoué dans les pays arabes, notamment rendu interdit, voire même adversaire par l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, et qui reviendrait davantage dans les pays européens. Vous avez aussi lu ce rapport. Qu'en avez-vous retenu de la menace réelle, d'un fantasme peut-être républicain ?
D'abord, je trouve qu'on est de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'avant, on réussissait à avoir une polémique après avoir lu le rapport. Puis, au moment où on lisait où le rapport a été publié, là, on a réussi à avoir la polémique avant même que le rapport soit publié. Ce rapport retrace l'histoire des frères musulmans vous venez d'évoquer et sa géographie. Donc, d'abord, je pense qu'il faut partir de ce rapport et le lire. Ça détaille la menace idéologique des frères musulmans, c'est-à-dire non seulement le séparatisme communautaire, mais aussi la volonté de réagencer les relations entre l'État et les religions. Et c'est ça tout l'intérêt opérationnel de ce rapport, ça détaille la menace concrète et ça permet de documenter son épaisseur, la différenciation entre ce noyau dont parlait Natacha et dont le rapport montre qu'il est étroit, et puis une sorte de halo d'influence qui s'étend au-delà. D'en documenter la géographie, c'est-à-dire à la fois les départements dans lesquels les frères musulmans sont davantage présents et les lieux dans lesquels ils essayent d'agir. Natacha a évoqué, et c'est très important, l'école. Il y a aussi un certain nombre d'institutions sociales ou d'associations sportives. Et de documenter enfin la méthodologie qui est un mélange d'entrisme brutal et de dissimulation habile. Donc de ce point de vue-là, je trouve que le rapport est utile parce qu'il permet de mieux connaître et de mieux comprendre. Après, il y a un deuxième sujet que Natacha a évoqué d'un mot, qui est ce qui s'est passé autour du rapport. Sa publication, le fait qu'il y ait des fuites de rapports en politique, c'est aussi vieux que la politique
que les rapports eux-mêmes.
Et que les rapports eux-mêmes. En revanche, la nature de ce document, la fuite d'un document classifié, et le moment avant un conseil de défense autour du président de la République, là, pour le coup, c'est quand même assez singulier.
Et ça a agacé le dit président de la République.
Mais
à juste titre.
Je pense que ça devrait faire plus qu'agacer, parce que, en réalité, ce n'est pas normal. Et puis, il y a les réactions. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est un rapport qui montre un travail des frères musulmans très localisé. Les premières conclusions qui en sont tirées sont de généraliser. Et ça a été vrai dans ce qu'évoquait Natacha, quand LFI dit c'est en fait un moyen de poursuivre c'est l'islamophobie, ou quand Gabriel Attal dit on va prendre une mesure générale. Donc c'est un peu le même réflexe pavlovien. Et puis je termine par les propositions. Je crois la ligne qu'on doit tirer de ce rapport, ça m'a fait penser à ce que quand Tony Blair a émergé au Royaume-Uni, il l'a fait sur les questions de sécurité, en disant il faut être dur avec le crime et dur avec les causes du crime. Et ben là, il faut combattre le séparatisme et il faut éviter la séparation. Et je trouve qu'il y a les deux dimensions, alors qui sont plus ou moins développées dans le rapport, et que le risque est qu'il n'y ait pas ce « en même temps ». Le combattre le séparatisme, c'est le travail local qui doit être fait pour documenter la réalité, mosquée par mosquée, lieu par lieu, pour voir s'il y a lieu d'agir. Et éviter la séparation, et je termine par là, il y a des choses qui sont des questions qui sont posées à la République elle-même pour ne pas multiplier les barrières envers les musulmans. On a vu cette semaine que les barrières à la naturalisation ont été augmentées et on sait que les barrières à l'intégration sont de plus en plus fortes et qu'il y a des la lutte contre la discrimination est totalement absente de ça. Et puis il y a des choses enfin qui concernent l'islam, l'exercice de l'islam elle-même, comment respecter les croyances. Il y a des propositions par exemple sur les carrés musulmans. Je suis intéressé de voir ce que le gouvernement va faire de ces propositions.
Un mot, Natacha, juste pour terminer sur ce dossier et sur ce premier thème du duel. La dimension géopolitique, j'ai entendu et lu beaucoup d'experts cette semaine qui disent on cible les frères musulmans, mais on ne regarde pas les salafistes, soutenus notamment par l'Arabie Saoudite. La semaine où l'Arabie Saoudite propose des investissements extraordinaire dans le cadre de Choose France. Est-ce que cette dimension-là, on doit l'avoir en tête ou bien c'est encore une fois regarder à côté du vrai problème ?
Non, bien sûr que cette dimension-là est extrêmement importante, ne serait-ce que parce que, en effet, l'Arabie Saoudite et le Qatar, depuis des décennies, financent l'islamisme au sens large, dans ses différentes composantes, et donc le séparatisme tel que nous le voyons. Et que l'aveuglement des politiques vient aussi du fait qu'il ne faut pas fâcher de généreux amis. Et la facilité est donc de cibler, en effet, les frères musulmans plutôt que la globalité de tout cela. Mais je reviens juste sur un point, un des grands intérêts de ce rapport, c'est l'analyse, en effet, locale, et c'est-à-dire le rôle et la solitude des maires. Parce que je crois que un des plans d'action, c'est aussi dans le travail entre l'État et les maires pour éviter la pression clientéliste.
Le grand face-à-face, le duel.
Deuxième thème, et on reste dans la même thématique parce que ce rapport, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'en est saisi, y voyant le signe d'une islamisation, je le cite, à bas bruit. Un ministre de l'Intérieur ultra présent et depuis dimanche dernier également à la tête des Républicains après une élection dans laquelle il a largement triomphé de Laurent Wauquiez.
Nos seuls adversaires, c'est la gauche mélenchonisée qui veut finalement communautariser la République, qui veut toujours plus diviser, qui veut toujours plus archipéliser la France. Et c'est à eux que nous devons réserver nos coups. C'est eux qu'il nous faudra désormais combattre. Une page se tourne et ce soir, la droite doit commencer à écrire une nouvelle histoire. Oui, mes amis, quelque chose de nouveau va ce soir se lever et va commencer.
Une nouvelle histoire, dit Bruno Retailleau, et cette nouvelle histoire, à l'écouter, elle se fait uniquement contre la gauche qu'il qualifie de mélenchonisée. Est-ce que ça veut dire, Gilles, que l'extrême droite n'est plus un adversaire de la droite républicaine ?
Il y a pour le moins une ambiguïté.
Quand j'écoute ça, j'entends aucune ambiguïté.
Vous vous souvenez quand on avait déjà parlé de Bruno Retailleau il y a quelques mois, et j'avais relevé une petite phrase qui m'avait alerté et qui, en fait, documente exactement ce que vous avez évoqué. Il disait, la différence entre Édouard Philippe et moi, c'est que lui croit à la tripartition, au dépassement, et moi, je crois à la bipolarisation. On peut considérer que le clivage gauche-droite est un clivage central et que c'est très important. Mais si on dit, ma perspective, c'est la bipolarisation, la logique, c'est que, au bout du bout, dans un sens ou dans un autre, il y a l'alliance entre la droite et l'extrême droite. Donc, je trouve qu'il, d'une certaine manière, il explicite quelque chose qu'il avait dit implicitement auparavant. Deuxième élément, je suis frappé de voir à quel point l'élection présidentielle de 2027 est déjà omniprésente dans le débat public. Et ce n'est pas seulement la pathologie de la Ve République, c'est la pathologie de la Ve République, mais pas seulement. Je crois que c'est aussi ce que la porte-parole du gouvernement a maladroitement affirmé, la fin du macronisme.
Pour le moins maladroitement.
Où se cumule le syndrome de ce qu'on appelle aux États-Unis le syndrome du canard boiteux. Que nous expérimentons en France. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a un président de la République qui arrive au terme de son dernier mandat. Plus les effets ratés des élections législatives de 2022 et davantage encore de la dissolution de 2024, où on a un canard boiteux à qui on a coupé ou qui s'est coupé lui-même une patte.
On a l'image.
Et donc, ce n'est que le début. Je pense qu'on va vivre, avec, comme on a une forme d'impuissance politique, on va voir pendant une longue période, une longue pré-campagne, puis une longue campagne. Et dans ce moment-là, il y a un moment Retailleau. Alors, il a commencé depuis sa nomination au ministère de l'Intérieur, et il est évidemment amplifié par la netteté de sa victoire contre Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Il est aujourd'hui dans une situation dans laquelle ce n'est pas assez pour pavoiser, mais c'est assez pour espérer. Et dans les intentions de vote qui valent ce qu'elles valent à cette période-là, on voit que son principal défi, ce n'est ni l'extrême droite, ni la gauche, c'est Édouard Philippe, et c'est de créer un rapport de force avec lui, et c'est tout l'enjeu qui est devant lui aujourd'hui.
Est-ce que, Natacha, question un peu perfide, vous auriez imaginé un jour que Bruno Retailleau serait aussi puissant dans le paysage politique français, honnêtement ?
Honnêtement, certainement pas, mais lui-même non plus, je pense. Il y a quelques années, je ne pense pas qu'il se voyait présidentiable. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui, à mon avis, a joué en sa faveur, en particulier face à quelqu'un comme Laurent Wauquiez, qui pêche par le fait que tout le monde voit que chacune de ses prises de position se fait en fonction de ce statut de potentiel présidentiable. Je rejoins Gilles sur un point. Il y a une dimension extrêmement importante qui est la vision qu'a Bruno Retailleau des enjeux de positionnement. Il est très clairement pour l'union des droites. Alors, je ne crois pas qu'il va vouloir s'allier avec le Rassemblement national. Je pense que pour l'instant, il rêve de siphonner le Rassemblement national comme Nicolas Sarkozy avait pu le faire en 2007. C'est un fantasme à droite depuis 2007 qui ne s'est jamais répété pour l'instant. Et encore faudrait-il comprendre exactement pourquoi ça ne s'est pas répété. Et surtout, revenons sur cette élection, 121 617 électeurs inscrits. Ça n'est pas beaucoup. La primaire de 2016 qui a porté François Fillon, c'était 4 404 812 votants au second tour. C'est pour dire qu'il est normal qu'il y ait un mouvement, un moment Retailleau, d'autant plus que Bruno Retailleau incarne une part assez restreinte mais très spécifique de la droite actuelle, puisqu'en fait il est dans la lignée de ce qui s'est réveillé avec la Manif pour tous, qui s'est mis à rêver un petit peu derrière François Fillon, c'est-à-dire une droite à la fois très catholique traditionnaliste, conservatrice mais libérale, mais sans être trop libérale non plus. On peut rappeler qu'il a voté non à Maastricht et au traité constitutionnel européen.
Contre-révolutionnaire.
Alors, en effet, je pense qu'il y a une dimension intrinsèquement réactionnaire au sens originel du terme. Donc, c'est quelque chose qui, électoralement, c'est le courant François-Xavier Bellamy, a fait 8% aux européennes. Donc, ça n'est vraiment pas énorme. D'autant plus qu'il va se retrouver en but aux autres à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il espère très clairement dépasser cette dimension-là. Le peut-il ? Encore une fois, le Rassemblement National incarne autre chose que ce courant-là.
Gilles, un mot.
Oui, juste un mot. D'une certaine manière, en devenant président des Républicains et pas seulement ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau va être contraint au dévoilement. Au dévoilement politique, parce que c'est un libéral conservateur dont on n'a vu pour l'instant ni le libéralisme ni le conservatisme, parce que il n'était que ministre de l'Intérieur et que sa fonction d'autorité suffisait, et de dévoilement stratégique, notamment à l'occasion des élections municipales qui arrivent très vite, où son parti va être obligé de s'allier à minima avec Horizon d'Édouard Philippe, voire dans un certain nombre de villes avec la Macronie. Donc on est dans un moment, ce moment Retailleau, mais avec un dévoilement dont on ne sait pas ce qu'il va donner après.
Le grand face-à-face, le duel.
Je suis venu dire aux électeurs que je ne les ai pas oubliés, que je sais bien ce qu'il se passe, je suis conscient de ce qu'ils traversent et qu'il y a un parti qui va les défendre. Ce parti, c'est Chega. Et je dirige ce parti pour défendre tous ceux qui sont victimes dans leur propre territoire d'une véritable intimidation permanente.
André Ventura, le leader du parti Chega, qui a fait une percée remarquable lors des élections législatives au Portugal dimanche dernier, 20% des suffrages, tout proche des socialistes, mais dimanche dernier également en Pologne, après le premier tour de la présidentielle, et en Roumanie, où finalement elle a échoué, mais de peu, un vent d'extrême droite semble souffler sur l'Europe. Est-ce que, Gilles, ce vent provoque une vague, selon vous, irrépressible ?
Alors, il s'est passé donc le même week-end dans trois pays différents, et quand c'est comme ça, moi, ma première tentation, c'est de complexifier. Et de dire, je me souviens quand j'avais 25 ans, j'avais lu l'éloge des intellectuels de Bernard-Henri Lévy, dans lequel il disait la fonction des intellectuels, c'est de refuser cette facilité et de faire apparaître les nuances, les dilemmes, les contradictions. Et donc là, de montrer les différences entre les trois pays, de montrer les différences entre les trois élections, de montrer les différences entre les trois extrêmes droites, et il y en a. En réalité, je pense qu'il ne faut pas complexifier, mais qu'il faut simplifier. Parce que ce sont les mêmes tendances qui sont à l'œuvre dans ces trois pays et que ce sont les mêmes tendances qui sont à l'œuvre dans toute l'Europe. Les points communs, c'est quoi ? C'est que l'extrême droite perd, mais perce. Et elle perce beaucoup, et elle perce rapidement, et un certain nombre de ces partis qui n'existaient pas il y a 10 ans. Deuxièmement, c'est que partout, dans ces trois pays, la droite est en responsabilité et c'est la gauche qui est aux conséquences. C'est-à-dire que la droite est en responsabilité, elle est au pouvoir, et donc l'idée de dire que c'est à cause de la gauche que l'extrême droite progresse, on en voit les limites. Mais la gauche est aux conséquences, c'est-à-dire que partout, la gauche recule, voire s'affaisse. En Roumanie, elle n'avait pas de candidat propre. En Pologne, au total, les deux candidats de gauche font 10%, et au Portugal, où la gauche, le Parti Socialiste était très puissant, il est à égalité avec l'extrême droite. Et enfin, partout, il y a un dérèglement de nos systèmes politiques et démocratiques. La démocratie, il y avait une espèce de magie qui commence par diviser pour après avancer et rassembler. Et là, elle divise, mais elle n'arrive ni à avancer, ni à rassembler, avec partout des gouvernements qui sont minoritaires et instables. Je termine par une citation d'un très bon livre de Giuliano da Empoli.
Il n'est pas loin de vous. Hein.
Qui n'est pas loin de moi. Et qui cite Joseph de Maistre, disant « Il faut avoir le courage de l'avouer, madame. Longtemps, nous n'avons point compris la révolution dont nous sommes les témoins. Longtemps, nous l'avons pris pour un événement. Nous étions dans l'erreur, c'est une époque. » C'est ça la question, est-ce l'époque ?
Natacha, rapidement, et puis après on écoutera celui qui a exhumé cette citation.
Rapidement, je n'ai pas eu les mêmes lectures que Gilles à l'âge de 25 ans. Et j'avais un professeur de Cagnes, professeur de philosophie, M. Henriot, qui expliquait à ses élèves l'intelligence. Intelligence vient de interligere, relier les choses entre elles. L'imbécile dit « je ne vois pas le rapport ». concluait-il. Et donc je pense qu'en effet, au-delà des nuances, il faut rassembler des phénomènes qui peuvent sembler diverses, mais qui ont un sens. Là, en l'occurrence, je crois en effet que les pays européens sont en train de vivre une crise qui va se payer par cette montée de l'extrême droite partout. Et le cas roumain est extrêmement intéressant, puisque c'est le pays de l'Union européenne où le PIB a le plus progressé derrière la Lituanie entre 2000 et 2024. Donc c'est un pays dont on peut dire qu'il a profité de l'élargissement de l'Union européenne, comme beaucoup d'autres à l'Est. Mais c'est un pays aussi qui en a profondément souffert, qui en a été profondément déstabilisé. Il a perdu quasiment 18% de sa population depuis 1990. La Bulgarie, c'est 26%. C'est-à-dire qu'on est face à des phénomènes où le capital est certes venu aux hommes, mais les hommes sont allés aussi au capital. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne telle qu'elle a été construite, c'est-à-dire sur des flux de capitaux, de marchandises et d'hommes, n'a pas réussi à faire converger les économies. Et nous le voyons en France, nous le voyons dans tout l'ouest de l'Europe aussi. C'était, et ce danger-là qui a été sous-estimé, c'est celui qu'on a vu s'exprimer, notamment en France, avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire une demande tout simplement de considération, de reprise en main et d'attention de la part des gagnants de ce système.
Cette intelligence, cet art de relier des situations différentes en un même thème et en un même concept, c'est tout à fait l'œuvre de l'invité qui vient de nous rejoindre. Place au débat du Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face, le débat.
Bonjour Giuliano D'Empoli.
Bonjour.
Grazie.
Grazie a lei.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On va s'arrêter là en italien. Romancier, essayiste. C'était assez court. Hein. Conseiller politique, vous dirigez le think tank Volta, tiens, un autre mot italien, à Milan, et l'édition papier de la revue Le Grand Continent, dont le dernier numéro vient de sortir sous le titre L'Empire de l'ombre, guerre et terre au temps de l'IA. Vous êtes aussi l'essai d'un passionnant L'heure des prédateurs chez Gallimard, qui a, je crois, on peut le dire, rencontré son public. Qui sont les prédateurs? Qui sont les proies? Comment chassent-ils ces prédateurs? Voilà les questions qu'on va vous poser avec Gilles et Natacha, mais je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en se rendant dans l'antre d'un grand prédateur, le bureau ovale, où mercredi, Donald Trump recevait le président sud-africain Cyril Ramaphosa pour un moment très trumpiste, très trumpien. C'est d'abord le président sud-africain qui prend la parole.
Nous sommes essentiellement ici pour remettre à zéro la relation entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Ce sont des fermiers blancs qui fuient l'Afrique du Sud, et c'est très triste à voir. Mais j'espère que nous pourrons avoir une explication à ce sujet, parce que je sais que vous ne voulez pas ça. Je voudrais qu'on en parle très calmement. Nelson Mandela nous a appris qu'en cas de problème, les gens doivent s'asseoir autour d'une table et en parler. La Constitution protège tous les Sud-Africains en ce qui concerne la propriété foncière.
Échange largement mis en scène avec un président qui montre des photos, une forme d'embuscade dans le bureau ovale qui n'est pas sans rappeler celle de Zelensky fin février au même endroit. Giuliano D'Empoli, ce genre de moment, ça nous dit quoi des prédateurs et de leur façon de fonctionner?
Je pense que vous avez choisi un très bon exemple. En même temps, on peut se dire aussi que vous auriez pu en choisir des douzaines d'autres.
Oui.
Hein, et depuis mercredi soir, il y en a eu d'autres qui se sont produits, parce que ça fait un peu partie de la méthode de ces prédateurs, justement, c'est de passer d'un moment de sidération à l'autre. L'épisode avec le président de l'Afrique du Sud, de ce point de vue, enfin, si on le prend isolément, est un épisode extraordinaire, parce que il reçoit en visite officielle le chef de l'État de l'Afrique du Sud, et il l'accuse immédiatement et publiquement d'être en train d'avaliser un génocide anti-blanc. Il lui montre des images du Congo, hein, parce qu'après on a vu que c'était des images qui étaient de la RDC, avec des morts, mais qui n'avait rien, strictement rien à voir avec la situation d'Afrique du Sud. Il l'humilie très violemment, donc il y a un peu tous les ingrédients d'une spectacularité extrême qui n'est basée sur aucun fait, mais qui joue par contre sur tous les préjugés et qui parle de façon très efficace à une partie de l'électorat de Trump, qui génère la sidération dans tous les adversaires qui encore une fois sont démunis face à ce type d'attitude. Et je pense que et en plus ensuite on passe à quelque chose d'autre,
oui.
C'est-à-dire le jour après, ça a été les étudiants Harvard qui ne pouvaient plus accueillir d'étudiants étrangers. Et là, on est de nouveau sur une autre séquence sidérante qui se produit. Et je pense que c'est un peu paradigmatique de la façon dont les prédateurs aujourd'hui occupent la scène.
Mais alors la scène, justement, je m'appuie sur ce mot-là, la mise en scène. On se souvient de Zelensky à la fin du moment terrible. Donald Trump dit aux journalistes c'était de la bonne télévision. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le spectacle est un moyen ou une fin pour les prédateurs comme Donald Trump?
Les deux, je dirais. Hein, je pense que Trump, il ne faut jamais sous-estimer Trump, mais il ne faut jamais le surinterpréter. C'est là que je trouve un peu la difficulté. C'est-à-dire, il ne faut pas le sous-estimer parce que c'est quelqu'un qui a... C'est une bête de politique parfaitement adaptée au contexte actuel et donc qui a une efficacité absolument redoutable. Il ne faut pas le surinterpréter parce que lui, même s'il peut être en réalité devenir l'objet, disons, de projets plus structurés de la part de gens qui sont autour de lui, en réalité, lui, à mon avis, il est mu par des pulsions qui sont assez primaires. Donc, faire du spectacle, faire de la bonne télé, pour lui, c'est un objectif en soi aussi. Après, ça lui permet d'atteindre toute une série d'objectifs ultérieurs. Moi, j'ai cette théorie que vous allez juger grossière, mais je pense que l'objectif principal, réel, central de Trump comme personne, comme individu, c'est qu'il a envie d'être, de devenir l'homme le plus riche du monde. Mmh. Hein, c'est ça qu'il veut faire. C'est-à-dire que lui, au fond, ça lui parle. Hein, c'est le seul véritable paramètre qu'il considère, bien plus que le pouvoir politique, au fond, qu'il méprise, qu'il ne l'intéresse pas vraiment. Lui, il a envie d'être en situation pour devenir l'homme le plus riche du monde. CNN a calculé qu'il accumule, qu'il engrange depuis le départ de son mandat, plus ou moins 1 milliard par mois, hein, à travers les affaires qui sont liées à sa famille et à ses activités. Il va falloir qu'il accélère un peu, s'il veut, dans les 4 ans, atteindre son objectif.
Ou bien appauvrir les autres.
Donc c'est assez primaire, ouais. Mais après c'est vrai que les effets de ça sont beaucoup plus larges.
Et d'ailleurs, il a reçu avant-hier soir à Mar-a-Lago les investisseurs dans sa crypto-monnaie, donc effectivement ça raconte un peu ça. On a dit à un moment donné que l'homme le plus riche du monde, c'était en fait Vladimir Poutine, peut-être, oui. Avec Gazprom notamment. Oui. Est-ce que, si on veut généraliser aux prédateurs, et après on va parler d'autres figures, cette question de la vénalité, de la recherche de l'argent, c'est quelque chose qui les unit ?
En partie, je pense que ça, au fond, c'est assez cohérent avec ce retour avec des personnages, moi je les appelle Borgiens, oui. Parce qu'ils rappellent la figure de César Borgia, qui était le modèle du prince de Machiavel, et qui donc nous parle d'une époque dans laquelle toutes les vieilles structures de légitimité, à cette époque-là, les petites républiques de la Renaissance italienne, s'effondrent, et le pouvoir, d'une certaine façon, y compris le pouvoir militaire, se privatise, ça devient justement des sortes de condottieri, sans foi ni loi, qui prennent le pouvoir, qui assoldent des mercenaires, qui sont dans un milieu chaotique, qui évoluent dans ça. Et donc, en effet, dans un contexte de ce type, le fait de pouvoir compter sur vos propres ressources est quelque chose qui compte aussi.
Gilles.
Vous avez dit, Thomas, que le livre de Giuliano d'Ampoli avait rencontré son public. C'est vrai, il se vend bien, il a beaucoup de lecteurs, mais comme il y a plus d'auditeurs qu'il n'y a pour l'instant de lecteur, mon premier message est, cet après-midi, c'est d'aller acheter le livre de Giuliano d'Ampoli et vous l'aurez fini dimanche et vous aurez passé un bon week-end. Au début, quand on lit votre livre, Giuliano d'Ampoli, on dit c'est étrange et plaisant. C'est étrange parce que, en apparence, c'est décousu. C'est un récit qui passe d'une ville à une autre, d'une époque à une autre, et on va plus tard, puis plus tôt, d'un sujet à un autre. Et en même temps, c'est plaisant parce que c'est ciselé, c'est talentueux, c'est ironique, c'est même drôle. Et puis, à la fin, on se dit, c'est étrange, mais c'est puissant. Parce qu'au bout d'un moment, quand on s'éloigne du dessin D-E-2-S-I-N, on voit le dessin D-E-2-S-E-I-N. Avec une idée, je crois, qui est simple, c'est que nos démocraties sont en danger létal, cernées à la fois par les nouvelles pratiques du pouvoir, ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les prédateurs, et par les nouvelles technologies, et notamment par l'IA. Donc, chapeau, bravo, ça se lit, ça se lit pas, ça se dévore, et oui. J'ai trouvé ça vraiment...
Ça se dévore, c'est bien pour un prédateur.
Vraiment formidable. Ma question serait peut-être pour commencer sur ces nouvelles pratiques du pouvoir, c'est ce que vous appelez, il faut, les prédateurs, c'est une action résolue, non seulement une action résolue, mais une action qui doit être irréfléchie, ce qui est très troublant pour nous, parce qu'elle doit produire de la sidération, dont le seul élément important, c'est la fin. Et les moyens n'ont aucune importance et le respect des normes, des procédures, des valeurs n'a aucune valeur. Et c'est ça la question que je voudrais vous poser. Vous dites, ils doivent augmenter la température. Qu'est-ce que ça veut dire, augmenter la température? D'où ça vient? Et est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'il y a une lutte contre, non pas le changement climatique, mais la température politique?
Giuliano D'Empoli.
Une augmentation de la température, en effet, c'est une scène que je raconte dans le livre, parce que, comme vous le dites, le livre est fait d'une série de scènes. Et c'est donc là l'ancien patron de Cambridge Analytica, qui est une boîte qui est devenue très connue parce qu'elle a participé à la campagne du Brexit et ensuite à la campagne de la première élection de Trump en 2016. Et le patron de cette boîte, qui était une boîte, disons, de communication stratégique sur les réseaux, qui d'ailleurs avait plutôt débuté son activité dans des pays en voie de développement, c'est intéressant, dans des contextes de guerre, enfin dans des contextes très 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 difficiles. Quand ses clients allaient le voir, il faisait donc le pitch de la boîte et il disait, si vous allez voir une boîte de com traditionnelle, vous voulez vendre du coca dans un cinéma, on va vous dire, faites des publicités, recrutez des stars, associez votre produit, rendez-le cool, et enrichissez des publicitaires à la fin qui vont... Et moi, je vous dis, si vous voulez vendre du coca dans un cinéma, il faut faire une seule chose, il faut élever la température dans la salle. Les gens auront soif et ils auront envie d'acheter du coca. Et ça, en effet, après, Cambridge Analytica a été balayé par les scandales, mais je pense que de façon plus générale, c'est un peu la grammaire, la nouvelle grammaire, disons, du système. Premièrement, en effet, de la tech elle-même. Hein, la logique des plateformes de la tech, c'est celle-là. Mmh. C'est d'augmenter la température à tous les niveaux en poussant tous les messages et tout ce qui peut créer le buzz, retenir l'attention et d'ailleurs de façon très segmentée selon bien évidemment les usagers. Et les prédateurs, ils s'appuient sur ça, au fond, parce qu'ils appliquent et ils importent la même méthode en politique. Et donc, ils bénéficient, ils profitent, ils alimentent et ils profitent de l'élévation de la température.
Natacha.
Alors, je me joins aux éloges de Gilles.
Je précise juste qu'il fait assez frais. Dans le studio, Natacha.
Il y a des moments dans ce livre qui sont des pépites, par exemple, une espèce de méditation historique sur le rapport entre les agresseurs et les défenseurs et les causes de guerre venant de la facilité et du moindre coût de l'attaque. Ce passage-là est magnifique, entre autres. Vous expliquez à un moment quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est le fait que le Parti démocrate américain est un parti d'avocats, de lawyers, qui édicte des normes, et que pourtant c'est ce parti a cru pouvoir s'adjoindre et s'est adjoint les géants de la tech, qui soutenaient les démocrates avant de basculer de façon spectaculaire dans le camp de Donald Trump. Et j'aimerais que vous expliquiez, selon vous, pourquoi il y a eu un tel aveuglement pendant des années vis-à-vis de ce que un ami journaliste à moi appelait de façon quasiment obsessionnelle, parce que justement ça le passionnait, le capitalisme californien. Et lui me disait, c'était Jean-Michel Quatrepoint, un journaliste auquel je tiens, et qui avait compris cela. Et qui analysait en permanence au fil de ses livres la structure de ce capitalisme californien et sa façon de détruire systématiquement les États, les crypto-monnaies étant le stade ultime de cela, une façon de déréguler, un potentiel donc d'exploitation terrifiant. Ce qui, logiquement, devait les conduire à soutenir des gens comme Donald Trump. Mais alors, d'où vient cet aveuglement? Est-ce que un parti comme le Parti démocrate a été séduit par la dimension libertarienne, donc libertaire, et donc censément adapté à son idéologie? Que dire de cela?
Et je précise juste pour faire une note de bas de page que c'est Bill Clinton qui a donné aux réseaux sociaux leur espèce d'impunité totale qui fait qu'ils ne sont pas responsables de ce qui est produit sur leur réseau, et donc ce qui fait monter la température.
La deuxième gauche a dérégulé beaucoup, enfin ce qu'on appelle en France la deuxième gauche.
Je pense que c'est vraiment 30 ans d'aveuglement, parce que cette première loi, elle remonte à 96, et à partir de ce moment-là, comme vous dites, on n'a pas vu que c'est derrière ces gentils jeunes hommes, parce que c'était quand même plutôt des hommes en sweat à capuche, qui ont commencé un peu à apparaître sur la scène à la fin des années 90, on n'a pas compris, je crois, que c'était, comme vous le dites, non seulement un modèle d'entreprise, une entreprise comme ça, qui d'ailleurs a accumulé rapidement des ressources immenses, mais que c'était un véritable modèle de société. Enfin, et on en a plutôt, alors pourquoi cet aveuglement? Je pense qu'il y avait un côté qui est lié à l'aspect communautaire, insurgent, plutôt sympathique, qui est en effet de la tech aussi, hein, les premiers outsiders qui émergent sur la scène, notamment aux États-Unis, quand même, c'est d'abord Howard Dean qui est candidat à la malheureux, mais qui a beaucoup de succès au départ de la gauche du Parti démocrate aux primaires de 2008, et ensuite surtout Barack Obama qui s'appuie quand même sur ce réseau-là, sur cette force-là pour faire du fundraising, pour émerger, pour diffuser son message et tout ça. Et les gens de la tech, ils jouent le jeu, hein. Ce sont souvent eux aussi de gentils progressistes qui ont comme ça qui professent des idéaux, ça part d'assez loin. En plus, dans la Silicon Valley, il y a toujours eu cette ambiguïté entre une industrie qui naît au fond d'investissements militaires considérables et après cet esprit, comme vous le dites, plutôt hippie, post-hippie, hippie incarné par des gens comme Steve Jobs, etc. Et donc, je crois qu'on n'a pas vu pendant très longtemps, s'il y a un fil un peu commun à tout le livre, c'est un peu ce récit-là. Dans mon livre, quand on parle aujourd'hui d'Elon Musk à côté de Donald Trump, on a complètement oublié qu'il y a 13 ans, dans la campagne pour la réélection de Barack Obama, Eric Schmidt, qui était à l'époque le patron de Google, a joué un rôle au moins aussi important. Sauf que on ne le voyait pas, il restait à sa place, il faisait semblant d'être justement simplement quelqu'un qui donnait un coup de main, et puis il était du bon côté, il était du côté des gentils, du gentil Obama, donc tout le monde était plutôt content. Alors que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au-delà même des opinions des uns et des autres, hein, il reste évidemment dans la tech beaucoup de patrons qui sont plutôt progressistes, qui sont plutôt anti-Trump, même s'il y en a beaucoup qui ont basculé du côté de Trump. Mais je pense que structurellement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la tech et ses patrons basculent des élites traditionnelles, hein, qu'elles avaient fait semblant d'appuyer, justement, les gentils technocrates de centre-droit et de centre-gauche, les élites de Davos, si vous voulez, qui existent et qui dominent la scène depuis quelques décennies, elles basculent sur quelque chose de beaucoup plus extrême, non seulement Donald Trump, non seulement Milei, Bukele au Salvador, qui sont un peu les icônes, mais même l'AFD en Allemagne, donc l'extrême droite en Allemagne, Farage en Grande-Bretagne, on verra qui ce sera éventuellement en France, mais on voit quand même déjà que Musk et d'autres, disons, apportent leur soutien, Trump lui-même à Marine Le Pen. Mais ce n'est pas par hasard, c'est parce que en réalité, Ils veulent la même chose. Ils veulent tuer les autorités traditionnelles, la vieille classe politique, les vieux systèmes politiques. Ils ne veulent pas être soumis à des règles. Ils ne supportent pas l'idée de règles. Comme vous le disiez, les élites traditionnelles, c'est plutôt des avocats, c'est plutôt des gens qui sont cadrés par les règles. Même si ce ne sont pas des avocats, ce sont des technocrates. Par contre, les gens de la tech et les prédateurs convergent naturellement sur un monde sans règles.
Ils convergent contre nous. Et j'aimerais, il nous reste 10 minutes, qu'on s'arrête quand même là-dessus, sur Est-ce que nous sommes des proies appelées à disparaître? Parce qu'à vous lire, entre les prédateurs et l'IA, nous sommes bien faibles, Gilles le rappelait il y a un instant, et non seulement nous sommes faibles, mais nous sommes naïfs. Comment sortir de la naïveté? Est-ce que sortir de la naïveté suffirait? Quelles sont les armes dont disposent les démocraties libérales, notamment européennes, pour ne pas devenir la proie de ces prédateurs et de cette IA dépersonnalisée?
Le premier signe qu'on dispose d'armes est l'hostilité avec laquelle tous les prédateurs convergent contre l'Europe et ses institutions et ses règles. S'il y a quelque chose sur laquelle Trump, Poutine et les gens de la tech sont d'accord, c'est pour presque tous les jours attaquer l'Europe, ses règles, ses institutions. Et donc, si ils attaquent tellement, ça veut dire quand même que ça les embête un peu. Et je pense que nous devons quand même, même si nous avons été naïfs, même si cette Europe a énormément de défauts, même si les règles sont parfois trop contraignantes, mais nous devons quand même ne pas céder à une rhétorique qui dirait oui, c'est vrai, ils sont peut-être mauvais sur la forme, mais ils ont plus ou moins raison, on est dépassé, c'est leur modèle qui va être gagnant. Je ne crois pas.
On l'entend beaucoup.
J'ai entendu cette semaine Emmanuel Macron
évoquer les normes européennes trop importantes. On a quand même, il y a une espèce de perméabilité de ces idées-là chez nous. Hein.
Je pense que c'est une erreur au sens où le modèle européen, malgré tous ses défauts, c'est la chose d'après. Hein, par rapport aux empires, par rapport aux... Aujourd'hui, on peut appeler ça, nos amis du grand continent appellent ça je me souviens plus.
La vassalisation heureuse de
formule, oui, mais un césarisme technologique ou quelque chose comme ça.
Césaro-technologique.
Il y a un thème comme ça.
Ils adorent ça au grand continent.
Il faut trouver mieux, parce qu'évidemment, si on ne se souvient pas exactement, ça veut dire que...
On les embrasse, on peut
faire mieux comme formule, mais c'est ça. Non, donc ces formules-là, aujourd'hui, c'est la reproposition au fond d'une logique impériale. Et l'Europe, malgré tous ses défauts, elle naît de l'écroulement et de l'effondrement de ces logiques impériales. Et elle se base sur une logique différente qu'il faut adapter à l'époque, mais qui représente un modèle plus avancé, et non pas moins avancé.
Tiens, adapter à l'époque, on va y réfléchir. C'est un enjeu, un défi. Gilles.
Je voudrais vous poser une question personnelle, Julien Dampoli. Et je voudrais le poser parce que je me la pose aussi. On a un parcours assez proche. Et j'étais intrigué par les trois derniers mots de votre livre. Vous avez été au cœur de la vie politique. Vous avez participé en tant que, non pas qu'élu, mais que conseiller à des gouvernements. Vous l'avez fait à une espèce d'âge d'or dans lequel la démocratie progressait, et le social-libéralisme, on va dire, gagnait en Europe. Aujourd'hui, la situation s'est profondément dégradée et vous êtes à distance. Je ne fais pas de lien entre le fait que ce soit dégradé et que vous êtes à distance.
Corrélation et causalité.
Est-ce que ça veut dire que vous avez renoncé à agir, c'est-à-dire que vous êtes passé à autre chose, à une carrière littéraire? Est-ce que vous voulez agir différemment, c'est-à-dire que vous pensez que là où vous étiez dans l'ombre, vous pouvez le faire plus efficacement aujourd'hui dans la lumière et à ce micro, ou est-ce que, parce que c'est les trois derniers mots, la lutte continue, vous pensez vous réengager? En gros, c'est quoi la bonne distance par rapport à la politique?
Et ça permet quand même aussi de dire comment on répond, est-ce qu'on est meilleur et plus efficace quand on est dans la machine ou quand on la commande, quand on fait des livres qui marchent. L'expression est revenue, hein, techno-césarisme, allez-y.
Je pense en effet que c'est assez personnel. Je pense que chacun, au fur et à mesure, en avançant et en faisant des erreurs et en se cognant contre des murs, apprend un tout petit peu aussi ce qui lui réussit, ce qui lui réussit moins. Moi, j'ai eu une frustration, effectivement, à partir d'un certain moment dans mon activité plus politique. Et j'ai eu aussi la sensation d'avoir commis des erreurs. Et quand vous avez commis des erreurs, je pense que vous êtes un peu moins convaincu, vous n'avez plus envie, vous vous dites, vous continuez à avoir des opinions, mais vous vous dites, je ne vais plus pouvoir combattre de la même façon, parce qu'il faut convaincre les autres, et vu que vous êtes déjà trompé vous-même, je pense que si vous êtes honnête, vous avez plus de mal à rester dans une forme de combat. Et dans mon cas, en plus, j'étais pas très bon, je pense. Hein. C'est-à-dire, je crois que d'une certaine façon, je suis plus efficace en écrivant. C'est une activité de nature différente, mais c'est ce que j'ai à faire moi. Et en plus, je suis plus heureux dans cette dans cette situation-là. J'ai beaucoup souffert et tout le temps souffert. Une des raisons pour lesquelles je pense que je n'étais pas fait pour la politique, et je n'y reviendrai pas directement, c'est que c'était passionnant, mais j'ai tout le temps souffert. Je ne sais pas si c'était votre cas, Gilles, mais moi, je souffrais tout le temps. Alors, je trouvais ça passionnant. Et alors que les gens qui sont faits pour ça, il faut quand même qu'ils en tirent une jouissance.
Hein. Et d'ailleurs, vous dites dans le livre que les prédateurs sont des gens qui n'ont pas l'intelligence des universitaires ou des académiques, mais une intelligence de l'instinct, qui le veulent plus que les autres. Ça, c'est une idée importante du livre, mais je donne la parole à Natacha.
Il y a un acteur qui n'est pas présent dans votre livre, ou de façon très subliminale. Ce sont les peuples. Les citoyens, je préfère d'ailleurs ce terme-là, les citoyens. Pourquoi je remarque cela? Parce que on se pose la question en vous lisant. D'accord, ils ont élu Trump, ils votent pour d'autres leaders d'extrême droite. Mais quand on regarde un mouvement en France comme les Gilets jaunes, c'est certes un mouvement qu'on peut regarder comme d'essence populiste, mais c'est aussi un mouvement d'insurrection démocratique, où des citoyens font référence à 1789. Et quand je dis ça, et que je vous lis, je me dis, mais... D'accord, il y a César Borgia, il y a les prédateurs. Mais après César Borgia, eh bien, il y a eu le mouvement humaniste fondé sur une très haute idée de l'homme et de l'éducation, et qui débouche sur les Lumières. Donc, est-ce que finalement, en se fondant sur l'éducation et sur les citoyens, on n'a pas une réponse
à Giuliano D'Empoli.
Tout à fait. Moi, je reste... Alors, le livre est... D'ailleurs, on m'a un tout petit peu reproché de temps en temps. Il est très sombre. Il ne contient pas.
Il est très drôle aussi.
Merci, ça me fait plaisir. Je pense que c'est important malgré tout. Et je pense qu'il ne faut pas laisser l'humour qu'aux méchants. Hein. Mais il est très sombre parce que je sentais un peu cette urgence là, et j'avais en plus un autre avantage de ne pas faire de la politique, c'est que vous n'avez pas d'obligation d'optimisme. Si vous êtes un leader politique ou même à la tête de n'importe quelle collectivité, il faut que vous disiez « Ah, mais ça va être mal, il y a des tas de problèmes, mais on va s'en sortir ». Moi, je n'ai plus cette obligation-là, et donc j'en profite, mais je suis d'accord avec vous. Et on pourrait, et moi j'y crois beaucoup, il y a des pistes de sortie, et elles s'appuient effectivement sur d'autres choses, d'ailleurs en partie rendues possibles par la technologie aussi. Hein, les gilets jaunes, c'était quelque chose. Alors, je dis pas qu'il y avait que du bien dans les gilets jaunes. Hein. On sait bien qu'il y avait les deux. Mais comme vous le dites, il y avait aussi ce côté de gens, d'ailleurs laissés pour compte, plutôt isolés, qui ont trouvé, d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux, c'était beaucoup sur Facebook et tout ça que ça s'est développé, qui ont trouvé des formes d'agrégation et d'une certaine façon une voie. Alors, pour moi, le problème est quand même un vrai problème de gouvernance. C'est-à-dire que je crois que, après on ne va pas trop développer, dans la tech, aujourd'hui, il y a ces éléments-là qui sont en réalité libératoires, qui permettent de très belles choses. Et puis, il y a un élément de contrôle, vraiment qui a une potentialité autoritaire très très forte.
Bien sûr.
Et qui, aujourd'hui, me semble quand même dominant. Hein. Mais c'est un problème de gouvernance. Et il y a des solutions à ça.
Yevgeny Morozov, l'un des grands spécialistes d'Internet, disait qu'Internet, c'est le meilleur ami des tyrans. Ça répond un peu à ce que vous venez de dire à la fin. Merci beaucoup, Giuliano D'Empoli. Si je résume, pessimiste et heureux. Ça vous définit plutôt pas mal. L'heure des prédateurs est à lire chez Gallimard. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Declat à la préparation de l'émission. Marie Merrier à la réalisation. Et aujourd'hui, l'excellent Julien Dumont était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.